jamais pendant ce temps j'encaisse. Oh yeah. Tu parles de nous matin, midi, minuit, tu vois les jours qui défilent. N'oublie jamais pendant ce temps j'encaisse. Oh yeah. Mais quand est-ce qu'on y va? J'ai mis ma plus belle veste. Je suis sur les grands boulevards. Prépare le cas, tu sais. Mais quand est-ce qu'on y va? Vas-y, démarre la caisse. Prépare le cas, tu sais. Je mène une vie sans limite. Je mène une vie sans limite.
Radio G, Radio G, Radio G. 101.5 FM.
Savourez nos différences.
Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant. Émission proposée et préparée par le groupe Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Aujourd'hui, j'anime l'émission avec Erika et Philippe. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir des représentantes de l'antenne jeune d'Amnesty Angers. Nous parlerons également de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais commençons tout d'abord par ton éditorial, Philippe. Tu te penches aujourd'hui sur la montée des discours et des actes anti-droits.
Nous alertons en effet sur le risque d'un recul de plus en plus important de nos libertés et de nos droits en France. La dérive autoritaire des USA nous en offre un avant-goût très inquiétant. Les discours qui contribuent à stigmatiser et à alimenter l'hostilité envers certains individus et groupes d'individus se généralisent et se normalisent, notamment sur Internet et sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, les critiques et les attaques contre les instances nationales et internationales deviennent monnaie courante et mettent en danger l'état de droit.
Les discours de haine sont donc effectivement monnaie courante.
En France, malgré la prolifération de plus en plus décomplexée de discours et actes racistes, les autorités continuent de nier l'existence du racisme systémique. Elles refusent de s'attaquer à ses causes profondes et empêchent l'autorisation de collecte de données sur le sujet. Conséquence, en 2025, le gouvernement n'a fait aucun progrès sur la question, en particulier pour mettre fin au contrôle d'identité dit du faciès.
Les politiques d'exclusion sont donc clairement assumées.
Bien que le Conseil constitutionnel ait largement censuré les mesures de la loi Asile et Immigration, ce texte restera celui qui aura historiquement dégradé les droits des personnes exilées en France. Les discours xénophobes et de dénigrement qui ont imprégné les débats autour de cette question ont continué d'être encouragés jusqu'au plus haut niveau et relayés par les réseaux sociaux et certains médias tout puissants.
L'islamophobie et l'antisémitisme gagnent du terrain.
La France est le pays d'Europe où la population juive est la plus exposée. On a enregistré 1570 actes antisémites en 2024, confirmant une tendance qui s'est amplifiée depuis le 7 octobre. Une large majorité d'entre eux constituaient des atteintes directes aux personnes. Par ailleurs, la France a été le seul pays à interdire aux femmes portant le foulard de faire partie de sa délégation olympique. Aujourd'hui, l'interdiction du port du foulard dans le sport pourrait être généralisé au travers d'une proposition de loi, privant ainsi de très nombreuses femmes et filles de l'accès à l'activité sportive de leur choix.
Autrement dit, la répression s'accentue.
En matière de maintien de l'ordre, la doctrine de la France est restée inchangée. Un recours disproportionné aux armes à létalité réduite, comme les lanceurs de balles de défense, les fameux LBD. Le gouvernement a même lancé un appel d'offres d'un montant de 27 millions d'euros pour la fourniture de grenades de désencerclement, un matériel de guerre dangereux qui a déjà provoqué des blessures graves lors de manifestations. Pourtant, à plusieurs reprises, des experts des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations quant aux techniques de maintien de l'ordre jugées excessives et au caractère disproportionné de la répression à l'égard de certains groupes.
On peut donc dire que la société civile est placée sous surveillance ?
Le recours à la vidéosurveillance algorithmique expérimentée dans le cadre de l'organisation des JO devait être une mesure provisoire. Pourtant, le gouvernement a cherché à la prolonger jusqu'en mars 2027, malgré les risques pour les droits humains et en dépit de l'absence de résultats probants. Cette mesure liberticide expérimentale pourrait devenir la norme. La reconnaissance faciale dans l'espace public pourrait être la prochaine étape, faisant basculer la France dans une société de surveillance généralisée.
Le positionnement international de la France reste ambigu.
D'un côté, les autorités françaises ont appelé à mettre un terme aux crimes internationaux en cours, ainsi qu'à lutter contre l'impunité. De l'autre, elles ont sapé l'autorité de la Cour pénale internationale en invoquant le principe d'immunité à l'annonce de l'émission de mandat d'arrêt pour crimes de guerre et contre l'humanité à l'encontre de Netanyahou et son ex-ministre de la Défense. En parallèle, la France n'a pas cessé complètement ses exportations de matériel de guerre vers Israël, en dépit des nombreux appels de l'ONU et des annonces du président.
Mais comment faire face dans un tel contexte ?
Cet environnement toxique n'est pas une fatalité. Nous avons le pouvoir d'agir en nous formant et en formant d'autres personnes à déconstruire les stéréotypes et les préjugés grâce aux ressources et aux formations que nous mettons à votre disposition. La résistance passe par les populations. Elle est déjà en marche. Regardez les habitants héroïques de Minneapolis aux États-Unis. La société civile s'organise, se mobilise et refuse les dérives autoritaires. Nous appelons la société française à poursuivre cet élan.
Merci Philippe.
Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Donc aujourd'hui, nous accueillons Alix, Léna et Victoria de l'antenne jeune d'Amnesty Angers. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
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 Bonsoir à vous trois.
Bonsoir. J'ai une première question. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi vraiment une antenne jeune Amnesty ?
Alors, c'est une association avec principalement que des jeunes. Donc, ça va de 15 ans à 26 ans. Et ça nous permet de promouvoir les droits humains à travers notre engagement.
Alors, où est-ce que vous étudiez ? Est-ce que c'est parfois au lycée, parfois à l'université ?
Les deux sont possibles. On a et des lycéens et des universitaires.
Donc sur Angers, c'est quel lycée et quelle université ?
Alors le lycée, je ne sais pas précisément d'où vient cette personne, mais en tout cas, université, on a surtout des étudiants en droit à l'université d'Angers et des étudiants en sciences politiques de l'Université catholique de l'Ouest.
Alors comment vous êtes organisés ?
On est environ 35 et on est organisés en 4 pôles. 4 pôles dont le pôle communication, le pôle journalisme dont... Léna est la référente, le pôle événementiel dont Alix est la référente et le pôle éducation aux droits humains dont Grégoire est référent.
Et quels sont vos liens avec Amnesty International, c'est-à-dire qu'il y a un groupe sur Angers, quels sont vos liens avec nous ?
On est en fait une sorte de branche qui est rattachée évidemment au groupe local d'Angers et en plus on communique pas mal ensemble.
Et est-ce que vous avez réalisé des projets en commun avec justement le groupe d'Angers ?
La plupart de nos projets qui sont communs, c'est les interventions dans des établissements scolaires. Récemment, nous sommes allés à la CCI d'Angers. On peut aller par exemple dans des MFR aussi, ce qu'on va faire prochainement.
Des maisons familiales, c'est ça ?
Rurales.
Rurales, exactement. Donc on fait beaucoup d'interventions de ce genre avec le groupe local.
Vous avez parlé d'EDH tout à l'heure, peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est.
EDH, éducation aux droits humains, donc pour évidemment évoquer tous les droits, tous nos droits.
Et est-ce que vous avez actuellement des projets qui sont en cours ou est-ce que vous songez à créer des événements jusqu'à la fin de l'année ?
Évidemment, on en a encore plusieurs. Déjà, on a une table ronde qui est organisée en collaboration avec UAMUN de l'Université d'Angers qui va parler
sur les puissances étatiques et les relations internationales.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est UAEM là ?
C'est une association qui fait une simulation des Nations Unies et donc on va faire un débat sur chacune des personnes représente un État et on parle sur une thématique, donc là c'est les relations internationales et les puissances étatiques.
Voilà. Et ça va se dérouler où cet événement ?
Ça va se dérouler, c'est pas encore sûr, mais normalement à Saint-Serge, dans l'université de Saint-Serge.
D'accord, donc en fait, vous êtes bien soutenu par l'Université d'Angers?
Oui, même si on n'est pas raccroché à eux directement, on est bien soutenu par eux et également par l'UCO.
D'accord, et ça se manifeste comment ce soutien de l'université?
On nous prête des salles, on peut nous prêter aussi le hall, par exemple, si on veut faire un stand, que ce soit des salles pour les réunions, même pour des événements. C'est souvent dans ce genre de manière qu'ils nous soutiennent.
Et quelles sont les thématiques qui, je dirais, intéressent le plus les étudiants et étudiantes que vous fréquentez?
Je dirais la plupart du temps tout ce qui est discrimination et racisme. Évidemment, c'est un thème qui revient souvent, comme également le droit des femmes. Il y a aussi les droits pour les personnes LGBTQIA+, qui revient énormément.
La liberté aussi revient énormément.
Et est-ce que, par exemple, l'éco-anxiété dont on parle souvent dans les médias, est-ce que ça vous revient aussi, ou est-ce que c'est un thème un petit peu mineur selon vous?
En tout cas, dans notre AJ, c'est un thème qu'on a un petit peu moins abordé. On a fait un ciné-débat dessus, mais on ne l'a pas plus abordé que ça actuellement.
Et vous pouvez préciser quel était ce ciné-débat?
Oui, bien sûr, c'était un ciné-débat sur le documentaire Yinta, qu'on a fait en décembre et qui s'est très bien passé.
Quoi Yinta? Parce que nos auditeurs ne savent pas. Mais ça se passe où?
C'est au Canada. Des peuples autochtones qui essayent de combattre pour leurs terres, qui sont en grande difficulté par un gazoduc qui est construit depuis plusieurs années. Donc il y a eu énormément de manifestations au Canada.
D'accord, et il y a d'autres ciné-débats éventuellement que vous avez prévus?
Prévus actuellement, non, mais on en a fait d'autres. Il y a eu sur le film Dossier 137, qui s'est passé aussi plus ou moins récemment, sur la liberté de manifester.
Est-ce que vous avez des partenaires avec qui vous avez des relations privilégiées, outre Amnesty Angers?
Et bah souvent, nos partenaires, ça reste les autres assos étudiantes, en fait. On a pu faire des événements avec Copain l'année dernière, UAMonde cette année, et par exemple, il y a aussi Solidarité Femmes, pour le droit des femmes. Tout dépend, en fait, du sujet qu'on veut aborder.
Et est-ce que vous entretenez des relations avec d'autres agis, d'autres villes?
On peut en entretenir, même si ça reste un petit peu compliqué de se voir. Il y a quelque chose d'absolument génial qui se passe, qui s'appelle le WIJ, le Weekend Antenne Jeune, qui nous permet de tous se voir pendant un week-end. Et comme ça, on peut prendre un petit peu contact, etc., avec les autres agis. On peut savoir ce qu'eux, ils font. Et on a un groupe Instagram où tous les représentants sont dessus et on se dit un petit peu ce qui se passe, ce qu'on fait, ce qui marche, ou ce qui ne marche pas, pour se donner des petits conseils.
Oui, ben justement, vous venez de parler d'Instagram. Est-ce que vous communiquez intensément sur les réseaux?
Évidemment, c'est quelque chose d'assez primordial de communiquer sur les réseaux sociaux. C'est plutôt le pôle journalisme qui s'en charge.
Eh bien, écoutez, alors en ce moment, on était un peu en veille parce qu'on a eu un problème d'organisation, mais on va reprendre d'ici quelques semaines et normalement, c'est une revue toutes les semaines.
D'accord, ben c'est très bien parce que c'est vrai que je pense que c'est important d'être présent là sur ces réseaux.
Tout à fait.
Et qu'est-ce que vous appelez une revue?
Une revue, c'est un point qu'on va développer dans des posts Insta. Et voilà, donc là, c'est souvent une journée internationale, par exemple, ou alors un problème actuel. Et on va le développer en plusieurs petits posts pour que les auditeurs comprennent pourquoi c'est important de savoir ça et pourquoi c'est en lien avec Amnesty.
Et sur les réseaux, votre public, c'est surtout des jeunes? Finalement, c'est ouvert à tous?
C'est ouvert à tous. Après, majoritairement, c'est vrai que c'est principalement des jeunes, sûrement parce qu'on est une association faite par des jeunes. Et donc, notre public est majoritairement ciblé sur eux pour qu'ils s'engagent et qu'ils viennent vers nous.
Être militant, étudiant, étudiante ou lycéen, lycéenne, c'est militer à travers les réseaux ou c'est aussi aller en manif?
C'est les deux.
C'est les deux parce que ce soit aller en manifestation ou sur les réseaux sociaux, déjà c'est très important pour donner de la visibilité, mais aussi tout simplement en faisant des événements pour sensibiliser les autres, parce que c'est très important aussi.
Et vous êtes généralement bien accueillis sur ces événements?
Oui, la plupart du temps, oui.
Merci beaucoup. Alors, comment peut-on faire pour vous contacter, à part les réseaux sociaux?
Eh bien, écoutez, nous avons notre mail, donc c'est jeuneamnestyangers@gmail.com, et vous pouvez nous retrouver directement sur Insta, au nom de Amnesty Angers AJ.
Et pardon, vos réunions, c'est une fois tous les mois à peu près?
Deux fois. Donc, une réunion toutes les deux semaines.
Et voilà. C'est toujours au même endroit?
Non, ça bouge.
Ça bouge, donc on peut pas se donner rendez-vous à un certain moment. Il faut vous contacter avant par l'intermédiaire du mail ou bien de l'Insta, c'est
ça? Exactement, donc ça peut être à l'université, soit à donc Angers, soit à l'UCO, ou alors ça peut être dans un bar par exemple.
Très bien, ah, les bars.
Très bien, très bien.
Surtout quand c'est tard le soir.
Oui.
On se retrouve bien tout à l'heure pour votre chronique, mais avant, on va écouter et faire une petite pause musicale.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el borolón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Vous venez d'écouter Volver, cette magnifique chanson argentine reprise par notre grande amie Gabriela Barrenechea. Et nous sommes bien sur Radio G 101.5 FM. Et c'est le retour de notre chère antenne jeune avec Léna et Victoria. Vous nous proposez une chronique ce mois-ci.
Exactement. Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez donc Angers Jeune Amnesty. Aujourd'hui, nous allons aborder une situation qui nous touche profondément et qui nécessite notre attention urgente. La crise humanitaire à Gaza, avec un focus particulier sur les personnes âgées. C'est un sujet lourd, mais essentiel pour comprendre l'ampleur des violations des droits humains. Sujet que j'aborderai avec ma collègue Victoria.
Bonsoir Léna. En effet, c'est un sujet crucial car au milieu du chaos humanitaire, les aînés sont les grands oubliés. Amnesty International vient d'ailleurs de s'associer avec Help Age International pour publier un rapport choc le 5 février 2026. Son titre est sans équivoque. Pushed beyond their limits. Poussés au-delà de leurs limites.
Ce qui est frappant dans ce rapport, n'est-ce pas Victoria, c'est qu'il ne se base pas sur des estimations lointaines, mais sur les témoignages directs de 416 personnes âgées à Gaza. Et les chiffres qu'elles rapportent sont terrifiants. Par exemple, on apprend que 76% d'entre elles vivent désormais sous des tentes, souvent dans une promiscuité extrême qui détruit toute forme d'intimité.
Exactement. Il ne faut pas oublier l'impact de l'instabilité géographique. 79% de ces personnes ont été déplacées plus de 3 fois depuis octobre 2023. Imaginez à 70 ou 80 ans devoir fuir sous les bombes à répétition en perdant à chaque fois le peu de repères et de confort qui vous reste.
C'est un déracinement permanent. Et ce n'est pas seulement une question de logement. 84% des aînés interrogés affirment que ces conditions de vie précaires ont un impact direct et dévastateur sur leur santé physique. On parle de personnes qui ont déjà des fragilités, qui sont vulnérables et qui se retrouvent exposées au froid, à l'humidité et au manque d'hygiène.
Justement, parlons de la santé. C'est sans doute l'aspect le plus critique. Le système de santé à Gaza est à genoux. Sais-tu que seuls 17% des seniors ont déclaré avoir un accès complet aux soins médicaux ? Pour la grande majorité, c'est le néant ou presque.
C'est ce qui m'a le plus révolté en lisant l'enquête. 68% des personnes âgées ont dû réduire, voire arrêter totalement, leur traitement médical faute de stock. On ne parle pas de médicaments de confort, mais de traitements vitaux pour le diabète ou l'hypertension. Dans 31% des cas, c'est précisément la prise en charge des maladies chroniques qui fait défaut. C'est une condamnation silencieuse pour des milliers de gens. C'est une double peine. La guerre et l'impossibilité de se soigner. Et concernant l'alimentation, c'est aussi un enjeu majeur dans ce contexte de blocus et de destruction des infrastructures.
Absolument. Cette détresse physique est doublée d'une insécurité alimentaire chronique. Bien que le cessez-le-feu ait permis une légère amélioration pour certains, la faim reste une réalité quotidienne. 11% des aînés n'avaient rien à manger du tout lors des 24 heures précédant leur entretien.
Et ce qui est poignant, c'est de voir que même dans cette misère, la solidarité subsiste. Près de la moitié des seniors interrogés, 48% exactement, ont avoué réduire leur propre ration déjà insuffisante pour laisser manger les plus jeunes ou les autres membres de leur famille. C'est un sacrifice immense au détriment de leur propre survie.
Et ce qui est important de rappeler, c'est ce que décrit ce rapport ne révèle pas seulement de la catastrophe humanitaire. Cela relève aussi très clairement du droit international humanitaire.
Oui, la 4e Convention de Genève impose aux parties au conflit de protéger les civils et en particulier les personnes vulnérables comme les personnes âgées. Elles doivent avoir accès aux soins, à la nourriture, à un abri. Ce ne sont pas des options, ce sont des obligations juridiques.
Le droit international est très clair aussi à l'accès aux soins. Empêcher ou rendre impossible l'accès aux médicaments pour les malades, pour les maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension, c'est une violation du droit à la santé reconnu par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Et les déplacements répétés dont on a parlé, c'est 79% de personnes déplacées plusieurs fois, ça entre aussi dans ce cadre. Le droit humanitaire interdit les déplacements forcés de population, sauf nécessité absolue de sécurité. Là, on parle de personnes âgées contraintes de fuir encore et encore.
Sans parler de la question de l'insécurité alimentaire, le fait que les civils n'aient plus accès à la nourriture peut constituer, selon le statut de Rome de la Cour pénale internationale, un crime de guerre lorsqu'elle est utilisée comme méthode de guerre.
Donc derrière ces chiffres, il y a aussi une réalité juridique très grave. Ce sont des droits fondamentaux qui ne sont plus respectés. C'est une dignité humaine bafouée à tous les niveaux. Et en tant qu'ange et jeune Amnesty, que pouvons-nous faire face à une telle situation ? Comment pouvons-nous, depuis Angers, contribuer à alléger ces souffrances ?
En effet, c'est là que notre rôle en tant qu'antenne jeune d'Amnesty à Angers prend tout son sens. On ne peut pas rester spectateur de cette dignité bafouée. Nous devons continuer à informer, à sensibiliser et à faire pression. Amnesty International appelle la communauté internationale à garantir un accès humanitaire sans entrave et à protéger les civils, en particulier les plus vulnérables comme les personnes âgées.
Absolument, Victoria. Et l'action commence ici à Angers. Nous devons être là, le relais de ces voix étouffées. Chaque signature de pétition, chaque partage d'informations, chaque discussion autour de nous est une pierre ajoutée à l'édifice de la justice. Car, pour rappel, le silence est le meilleur allié des violations des droits humains. Notre rôle ici, à Angers, c'est aussi de rappeler que ces textes existent, que ces règles ne sont pas théoriques, elles sont faites pour protéger des personnes comme celles dont on parle aujourd'hui.
Chaque signature, chaque partage compte pour briser ce blocus et garantir le respect du droit international humanitaire. Merci à tous de nous avoir écoutés et de rester engagés à nos côtés.
On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique. En attendant, restez vigilants et n'oubliez pas, les droits humains ne sont jamais acquis et ils se défendent chaque jour. À bientôt.
Eh bien, merci beaucoup pour ce bel élan militant. Vous êtes toujours avec nous sur Radio G 101.5 FM dans l'émission Droit devant. Et c'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
Devenu le bras armé de Donald Trump, l'ICE frappe sans distinction. Elle arrête des personnes étrangères n'ayant commis aucune infraction, des enfants sur le chemin de l'école et tue des citoyens américains venus protéger les personnes visées. Parmi elles, Alex Preti. Il avait 37 ans. Il était infirmier dans un hôpital pour anciens combattants. Le 24 janvier dernier, l'ICE patrouille dans un quartier de Minneapolis dans sa traque contre les personnes étrangères. Alex Pretty filme une descente anti-immigration en cours pour tenter de défendre les personnes visées. L'ICE l'a abattu en pleine rue.
Le rappeur iranien Toumash Salehi aurait été touché par plusieurs balles dans le dos pendant une manifestation en Iran. Cet artiste avait été condamné à mort en 2022 pour avoir manifesté après la mort de Mahsa Amini, puis libéré en 2024. Des milliers d'Iraniens et Iraniennes refusent toujours de se taire. Face à la répression sanglante qui se poursuit, le courage est immense. Plus que jamais, nous devons absolument continuer à porter leur voix.
Au Venezuela, la question des prisonniers politiques reste centrale. La société de presse rapportait hier que les familles de détenus se mobilisaient devant la prison du Helicoïde, tandis qu'un projet de loi d'amnistie discuté au Parlement pourrait conduire à la libération de centaines de prisonniers. Entre le 8 janvier et le 1er février dernier, des défenseurs des droits humains détenus arbitrairement ont été libérés de leurs centres de détention respectifs. Aucun d'entre eux n'aurait dû être placé en détention au départ, et Amnesty continue d'appeler à ce que leur libération soit inconditionnelle et à ce que les poursuites pénales intentées à leur encontre soient closes immédiatement et définitivement.
Des nouvelles du Soudan, où la guerre continue d'être l'une des pires catastrophes humanitaires actuelles. Le conflit aurait fait plus de 40 000 morts et au moins 14 millions de déplacés. Dernier exemple, une attaque de drone attribuée au FSR a tué au moins 24 personnes, dont 8 enfants, en visant des familles déplacées. Les FSR, Forces de soutien rapide, sont un groupe paramilitaire en guerre contre l'armée régulière soudanaise. C'est aujourd'hui un acteur central de la guerre civile qui ravage le pays depuis 2023.
La Chine vient d'annuler la condamnation à mort du Canadien Robert Lloyd Schellenberg. Il n'est pas libéré, mais devrait être rejugé, ceci dans le cadre de l'amélioration des relations diplomatiques entre les deux pays. Arrêté en Chine pour trafic de drogue, il avait d'abord été condamné à 15 ans de prison, puis rejugé et condamné à la peine capitale en 2019. Amnesty International avait alors dénoncé une violation flagrante du droit international.
En Israël, une nouvelle loi s'apprête à imposer la peine de mort pour terrorisme. Une loi extrêmement dangereuse car elle permettrait aux tribunaux israéliens d'étendre son application. Les personnes visées sont clairement les Palestiniens et les Palestiniennes. Dans certains cas, la peine de mort serait prononcée sans aucun droit de faire appel. Des rapporteurs de l'ONU dénoncent ce texte.
Et rappelons toujours qu'à Gaza, la population est privée de vivre. Le génocide se poursuit en toute impunité.
Le vendredi 6 février, 53 personnes sont mortes ou portées disparues après le naufrage d'une embarcation transportant des migrants au large des côtes libyennes. Seules deux femmes nigériennes ont été secourues. L'une des survivantes a déclaré avoir perdu son mari, tandis que l'autre a dit avoir perdu ses deux bébés dans la tragédie. Ce naufrage porte à au moins 484 le nombre de migrants signalés morts et disparus ou disparus sur la route migratoire de la Méditerranée centrale en 2026, selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'agence onusienne rappelle que la route migratoire de la Méditerranée centrale est la plus mortelle au monde, avec 1340 décès enregistrés l'an dernier.
On finit par une bonne nouvelle. Le socialiste Antonio José Seguro a été élu dimanche 8 février président de la République portugaise avec 66,8% des suffrages face au leader d'extrême droite André Ventura, 33,2%. L'ampleur de l'écart témoigne d'une forte mobilisation. Monsieur Seguro étant parvenu à rassembler bien au-delà de son camp, bénéficiant durant la campagne du soutien de personnalités issues de l'extrême gauche, du centre et de la droite. Il faut cependant rester vigilant. Le score de Ventura est en progression par rapport à celui de son mouvement aux législatives de mai 2025, ce qui confirme son ancrage et en fait un acteur central et disruptif de la recomposition politique du pays.
Et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM. C'est le temps de l'agenda militant et culturel.
La Confédération Paysanne organise un méga concert de soutien le jeudi 19 février à la salle Jean Carmet de Muré-Rigné. Au programme, un fest-noise hip-hop et de la techno-activiste avec Planète Boom Boom.
Béziers, l'envers du décor. Rendez-vous le 25 février à la salle Émile Joulin au Lyon d'Angers pour ce ciné-débat. Ou bien à Saumur le 3 mars sur le site de la CMCAS de Bournant.
Avec nos amis de la LDH.
Le 2 mars à 20h au 400 coups, ciné-débat avec le documentaire Utopie zéro chômeur qui nous raconte une expérimentation sociale menée depuis 2023 sur le quartier Saint-Nicolas à Laval.
Le 4 mars à 18h30, on se retrouve à l'Institut Municipal pour une conférence de pédopsychiatres sur l'action des écrans sur les ados.
Et notez tout de suite sur votre agenda le dîner-spectacle en soutien aux jeunes exilés à Angers, organisé par l'association Asile et Partage le samedi 28 mars 2026 au centre Jacques Tati de Belleveille.
Et on se retrouve chaque samedi à 15h, place du ralliement, pour demander une paix durable à Gaza.
Il est déjà presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier Léna, Victor,